L'église de Luxembourg, dans le passé, était une église bien établie, assez puissante même. Aujourd'hui, hélas, elle n'est que l'ombre de ce qu'elle était auparavant. Des gens assez âgés qui fréquentent les messes. Par contre, comme Luxembourg est un pays multiculturel, multinational, les non-luxembourgeois, qui correspondent à peu près 44% de la population, sont en général beaucoup plus pratiquants. Surtout les Portugais, les Capverdiens, ce sont des assemblées dominicales avec beaucoup de ferveur, des églises pleines, des gens de tout âge.
Quels sont les rapports aujourd'hui qu'entretient l'Église avec l'État ?
Donc les rapports sont basés sur le concordat de Napoléon, c'est-à-dire que les prêtres sont payés par l'État. Il y a les fabriques d'église qui sont des organisations semi-publiques sous tutelle de l'archevêché et de la commune. Les églises des presbytères appartiennent en général aux communes. Donc un système où État et église sont fortement mêlés. Même s'il y a séparation, par exemple, aucun ministre de culte ne peut devenir candidat aux élections, etc. Donc il y a un grand débat maintenant de séparation entre Église et État, débat qui avait déjà commencé avec le gouvernement précédent, présidé par un Premier ministre social-chrétien. Maintenant, les débats sont devenus beaucoup plus forts avec un Premier ministre libéral, un gouvernement libéral, écolo-socialiste.
Vous avez rencontré le 10 février dernier avec d'autres représentants des cultes présents au Luxembourg, le Premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi vous avez parlé ? On imagine qu'il s'agit justement de cette séparation. Comment ça s'est passé ?
Nous avons rencontré donc le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, avec le Conseil des cultes conventionnés. Les orthodoxes, les églises issues de la Réforme, les anglicans, la synagogue et l'église catholique. J'ai été élu président de ce conseil des cultes conventionnés. Et tout d'abord, nous nous sommes présentés pour montrer quel est l'impact de nos communautés sur la société de Luxembourg, en soulignant aussi l'importance, la cohésion sociale pour laquelle œuvrent nos différentes communautés. Le Premier ministre a tout de suite parlé finances. Il nous a dit que nous coûtons trop et qu'on devrait faire des économies. Il a un peu parlé d'un modèle possible italien ou allemand avec les impôts, etc., mais sans précision. J'ai demandé à ce moment, au nom de tous les cultes conventionnés, d'avoir des propositions par écrit, que nous puissions discuter avec notre base, avec nos communautés, et pour ensuite donner une réponse au Premier ministre.
Donc si je comprends bien, c'est plus le facteur économique que ce qui avait déjà été évoqué, à savoir de nouvelles réalités sociétales qui sont la cause de cette remise en question des rapports entre l'État et les cultes.
Disons, il y a un fort mouvement anti-église à Luxembourg, qui vient en partie aussi, comme j'ai dit dans le passé, une puissance de l'église qui était un peu trop forte. Mais ils combattent une église qui n'existe plus aujourd'hui. Donc en général, il y a une grande ignorance sur le fait d'église, sur Concile Vatican II, toutes les réformes, etc. Et surtout, le point douloureux pour nous, c'est l'abolition de l'enseignement religieux dans les écoles. Nous avons pour le moment un système où il y a instruction religieuse qui est catholique et morale laïque. Donc les élèves peuvent faire le choix entre les deux enseignements. Dans le primaire, nous avons à peu près 70% qui choisissent religion catholique, 30% qui choisissent morale laïque. Dans le secondaire, cela fait à peu près 60-40%. Donc une majorité qui choisissent instruction religieuse. Et le gouvernement voudrait abolir les deux cours pour les remplacer par un cours de valeurs neutres et uniques.
Qu'est-ce qu'ils entendent par des valeurs neutres et uniques ?
Nous avons posé la même question parce que je ne comprends pas ce que c'est qu'une valeur neutre. Et d'autre part, il y a aussi un élément démocratique que les parents et les élèves choisissent l'instruction religieuse. Elle n'est nullement minoritaire, elle n'est nullement en crise. Et il y a une possibilité de choix. Pourquoi donc abolir cette instruction religieuse ? D'ailleurs, il y a un mouvement avec site internet firdechoix.lu. FIR, c'est pour, donc pour de choix, de parents, d'élèves, etc., qui demandent au gouvernement de réconsidérer leur décision. Je voudrais encore ajouter que j'ai eu la chance de pouvoir aller avec presque 280 jeunes à Rio. Donc il y a un certain éveil religieux aussi à Luxembourg.
Il y a d'autres décisions comme ça qui toucheraient directement les fidèles avec cette réforme?
On va le voir. Il y a un autre point qu'on avait évoqué, c'était le Te Deum. À la fête nationale, qui est l'anniversaire officiel du Grand-Duc, il y a donc un Te Deum catholique comme célébration nationale, où c'est le ministre d'État qui invite. Et l'année passée, nous avons commencé, où j'avais fait la proposition, par un moment interreligieux, où donc aussi des représentants des autres religions ont prié ensemble à la cathédrale pour le Grand-Duc. Ce que le Premier ministre veut maintenant, c'est donc pas l'abolition du Te Deum, mais que ce soit l'archevêque qui invite, et qu'avant le Te Deum, il y ait un moment de célébration non religieux au Grand Théâtre. Là, je n'ai nulle opposition à cela.
On imagine quand même vos préoccupations, notamment sur la question de l'enseignement. Est-ce qu'elle est partagée par les autres cultes au Luxembourg? On imagine que oui, hein, mais...
Pour l'enseignement religieux, jusque maintenant, il n'y avait que l'enseignement religieux catholique. Sous l'ancien gouvernement, il y avait un groupe d'experts qui analysaient donc le fait communauté religieuse, État, et ils avaient mis le point sur une injustice, que ce soit seulement l'Église catholique à avoir l'enseignement religieux, et je partage entièrement leurs critiques. Comme Église, nous sommes pour la liberté de religion, ce qui évidemment veut dire aussi donner droit aux autres communautés religieuses reconnues d'avoir un cours d'instruction religieuse à l'école. Et je pense que c'est surtout pour nos frères et sœurs du monde musulman, qui sont à peu près 2% de la population et qui, à ce moment, sont la deuxième religion après l'Église catholique, qui ne sont pas reconnues par l'État, d'avoir aussi la possibilité d'avoir cet accès.
Mais avec cette séparation entre l'Église et l'État, est-ce que les autres cultes ont le sentiment que ça peut leur servir, desservir? Comment est-ce que vous percevez
non,
ça, puisque vous travaillez ensemble?
Les autres cultes le perçoivent comme une menace beaucoup plus grande que l'Église catholique. L'Église catholique, quand même, est la grande religion, disons, dans le pays, tandis que les autres cultes sont de petites communautés, et ce n'est plus l'apport financier de l'État. Cela voudrait dire que ce serait impossible de maintenir un poste de grand rabbin, de pasteur, etc. Donc ils sont beaucoup plus inquiets que nous.
Vous l'avez dit, le précédent gouvernement avait déjà souhaité qu'il y ait une séparation entre l'Église et l'État. Ça ne s'est pas fait. Là, l'actuel gouvernement insiste et remet évidemment le sujet sur le devant de la scène. Est-ce que vous pensez que cette réforme a des chances d'aboutir?
Je pense que ça va aboutir, puisque c'est la décision politique de ce gouvernement et que c'est même leur point commun. Parce que pour tout ce qui est politique, économique, quand même, il y a des mondes qui séparent un parti socialiste et un parti libéral. Mais on se met tout de suite d'accord sur tout ce qui touche la religion. On voit l'Église catholique comme la grande ennemie, surtout pour des débats sociaux. Nous aurons maintenant une libéralisation presque complète de l'avortement. Nous aurons le mariage pour tous avec droit d'adoption, etc. Et l'Église est vue comme celle qui freine ces soi-disant progrès sociaux.
Est-ce que pour vous, s'en prendre comme ça à l'Église, c'est une manière peut-être un peu facile d'éviter des sujets plus compliqués, et notamment économiques, avec la crise sociale qu'on connaît? Alors évidemment, peut-être qu'elle est moindre au Luxembourg, mais d'éviter d'autres sujets importants.
Nous entendons l'appel du pape à plus d'authenticité, à nous ouvrir sur les pauvres. Notre Église est aussi en réforme. Nous sommes en train de nous acheminer dans ce processus. Et elle est moindre à Luxembourg, mais nous avons quand même des sans-abri, nous avons des gens qui n'ont pas de travail, et cela commence à devenir un problème structurel. Il y a l'écart entre riches et non-riches qui se creuse. Il y a le problème de cette société luxembourgeoise composée d'étrangers, de luxembourgeois, mais où les luxembourgeois donc votent pour le Parlement et pas toute la population. Nous avons par exemple à Luxembourg-Ville presque 68% de la population qui ne sont pas luxembourgeois. Seulement 32% de la population de Luxembourg-Ville sont luxembourgeois. Donc il y a des problèmes de cohésion sociale, etc. Mais naturellement, c'est plus facile d'attaquer l'Église. Et en général, ça vient aussi d'une idéologie anti-Église, lumière française, mais assez peu réfléchie. Il n'y a pas de vrai débat sur la place de la religion dans la société. C'est comme un accord, disons, que la religion devrait faire part du privé. Je ne suis pas du tout contre une certaine forme de séparation entre Église et État. Cela profiterait aussi à l'Église, certaines réformes. Mais je suis absolument contre que le fait religieux soit uniquement considéré comme privé.